cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le pit stop avec Gravel, 7h45. Le point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 18h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parler en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Juste avant de te présenter mon invité pour le podcast de ce soir, on va regarder ce qui se passe côté météo pour notre belle et grande région. Minimum de 14 pour ce qui est de ce soir. Jusqu'à maintenant, je vois des averses là, qui devraient débuter. Si ce n'est pas déjà fait, ce sera dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Mais chose sûre, il devrait pleuvoir ce soir sur le territoire. Pour ce qui est de demain vendredi, ce sera un ciel dégagé avec un maximum de 21, indice humidex de 26. Samedi, de la pluie intermittente, maximum de 17. Et dimanche, ce sera une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 20 degrés. Mon invité de ce soir, Moncef Deragy, député de Nelligan, sous la bannière du Parti libéral du Québec. On va parler, bien entendu, de la commission Galant, puisqu'il ne rate pas une seconde de la commission Galant et de bien d'autres sujets qui sont hyper importants pour nous en tant que contribuables. Donc, je vous présente Moncef Deragy à l'instant.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Mon invité de ce soir, quel plaisir de l'avoir, c'est Moncef Deragy, un gars qui n'a pas pris ben de congé cet été en raison de la commission Galant. C'est le député de Nelligan sous la bannière du Parti libéral du Québec. Très content de l'accueillir. Monsieur Deragy, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Marceau. Très heureux de vous revoir.
Oui.
J'avais l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais non, juste hier, 6h30, entre 6h30 et 6h45 le matin.
Exactement. Puis ça me fait plaisir de jaser avec un député qui travaille en dessous du salaire minimum, si je calcule toutes les heures supplémentaires que vous faites pour vos électeurs. Je trouve ça exceptionnel. Puis je n'ai que de bons mots pour vous, M. Deragy. Honnêtement, peu importe le parti pour lequel les électeurs sont, quand on parle de Moncef Deragy, puis hier, je parlais avec Marois Risky aussi, vous êtes deux personnes extrêmement aimées de toutes les parties, et ça, c'est en raison du travail acharné dont vous, que vous faites actuellement, autant vous que Madame Risky.
Ben, merci beaucoup et je pense qu'on doit honorer le mandat que le peuple québécois nous a donné. C'est vrai, on n'est pas au gouvernement, mais on a aussi une tâche extrêmement importante. Moi, je le dis souvent, c'est contrôler l'argent des contribuables, l'argent que le gouvernement dépense, l'argent durement gagné par les contribuables. Et moi, j'ai toujours pensé que je suis en mission de contrôler les portefeuilles que je gère au nom des contribuables. Donc, c'est pour cela que je prends au sérieux mon rôle et j'essaie de le faire en respectant le serment que j'ai donné au peuple québécois quand je suis devenu élu de la nation au nom des citoyens du comté de Nelligan.
Est-ce que vous êtes retourné à la maison dernièrement? Est-ce que vous avez été remplacé par votre conjointe? Est-ce que vos enfants vous reconnaissent? Parce que cet été, là, mon chef de régie était très à l'affût de la commission Galant.
Oui, c'est vrai et je vais saisir l'occasion pour remercier ma femme, Myriam, qui fait un travail exceptionnel, les deux enfants qui l'aident aussi. J'ai quelqu'un qui, mon fils vient de commencer le secondaire, c'est sa première année.
Wow.
Ma fille, elle est dans sa cinquième année et pour la première fois, j'ai raté sa rentrée scolaire. Et c'est ma fille, il était un peu fâché, mais bon, écoute, je me suis excusé parce que ça a été la grosse journée d'entrevue. Ça m'arrive de faire entre 7 et 8 entrevues par jour. J'étais même, je dirais, avec les enjeux de Air Canada, j'avais des entrevues de l'extérieur. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas de vacances. Depuis que la commission Galant a commencé, c'est sérieux, il faut suivre le fil conducteur. Et au moment où je vous parle, j'ai un écran en face de moi. C'est une rencontre extrêmement importante parce que c'est une vice-présidente de la SAC qui est en contact avec le cabinet et on voit le rôle du cabinet de M. Bonnardel en changeant certaines phrases. Au début, quand j'ai commencé à parler avec vous, j'ai utilisé un mot qui n'est pas correct, que je ne peux pas utiliser maintenant parce que ça me choque de voir ce genre de comportement chez nous au Québec. Ça me choque. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, j'ai de l'aide à la maison, mes enfants comprennent. ce que je fais, 50 ans, ma femme m'aide beaucoup, beaucoup, mais c'est vrai, la conciliation est extrêmement difficile.
Oui, effectivement. Puis moi aussi, j'ai changé d'horaire, puis je peux vous dire que la famille, souvent, écope un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi-même, je l'ai vécu avec mes parents. Plus tard, on comprend un peu le contexte des choses, puis on peut être très fier de nos parents, puis j'imagine que vos enfants le seront très fiers de leur père lorsqu'ils prendront conscience de toute l'ampleur que vous faites pour en tant que député de Néligan. Quand on est à la commission Galland, quand on est devant M. Galland, quand on jase avec les procureurs, est-ce qu'on est sous serment?
Oui. Donc, oui, absolument.
Si on, ment, qu'est-ce qu'on risque?
Bonne question. Je ne suis pas juriste.
Ce serait considéré comme un outrage au tribunal.
Écoutez, je ne vais pas m'aventurer parce que vraiment, je ne sais pas, mais écoute, la plupart, gérer la comparution de ces témoins se fait sous serment, donc ils doivent dire uniquement la vérité et rien que la vérité. Mais c'est une bonne question, je ne sais pas c'est quoi les conséquences, mais au-delà de ça, ce que je trouve troublant, c'est les versions. C'est les versions de M. Legault, de M. Koskinen, de M. Wallet. Ces trois personnes que je viens de nommer, c'est eux qui gèrent le Québec. Donc, si ces trois personnes viennent vous dire aujourd'hui, je ne le savais pas, ben vous savez quoi? Quittez le pouvoir si vous ne savez rien. Parce qu'un patron d'entreprise qui ne sait rien, son entreprise va faire faillite. Ou bien s'il y a un conseil d'administration, un board, ben ils vont le mettre dehors, le PDG. Ils vont le renvoyer. Mais on tolère ça au Québec. Koskinen...
Je ne crois pas que M. Koskinen soit un incompétent. Je ne pense pas que François Legault soit un incompétent. Je pense qu'on se fait mentir. Ces gens-là ont tous été briefés. Il y a Geneviève Guilbeault qui s'est fait prendre par le fameux courriel qu'elle avait écrit au premier ministre et à Martin Koskinen. Et là, elle a dit « Ah, mais c'est parce que là, je m'en souvenais plus. » Mais des troubles de mémoire, moi, je pense qu'on peut en avoir quelques-uns, là, mais autant, je pense... 40 fois, dans le même interrogatoire, c'est assez particulier.
Moi je pense ils ont plaidé l'ignorance. Ils ont plaidé l'ignorance parce qu'ils voulaient s'en sortir, parce que M. Legault avait deux choix. Soit je ne le savais pas, et ça c'est grave parce qu'on ne parle pas de mon voisin, on ne parle pas d'une amie, on ne parle pas d'une collègue, on parle du patron, le boss. Ce boss qui s'appelle François Legault peut changer des lois. Et il a la majorité. Il peut faire adopter des lois, peu importe, même les baïonnés d'ailleurs, et il les a fait. Koskinen, qui est l'ami de longue date de M. Legault, et l'intellectuel de M. Legault. En fait, c'est lui qui réfléchit à l'avenir du Québec avec son patron. Et le secrétaire général, c'est le bras droit, les yeux et les oreilles de M. Legault dans l'appareil gouvernemental. Donc, juste pour que les gens puissent comprendre avec qui nous sommes, parce que c'est très important, M. Marceau, de comprendre tout cela. Là. Le jour du dépôt du rapport du vérificateur général, je faisais face à une meute qui avait une seule phrase. On nous a menti, on vous a menti, et en essayant de m'inclure dans le « en » tant que parlementaire pour chercher une certaine solidarité en tant que parlementaire et avaler la version caquiste que « oui, il y a des mensonges ». Écoutez, fermez vos gueules là, il y avait un mensonge, on vous a menti. Vous n'avez pas eu l'information. Moi, je n'ai pas acheté cette... et heureusement, je n'ai pas acheté cette thèse parce que j'avais les procès-verbaux, je ne les ai pas maintenant avec moi, mais souvenez-vous de la pile. Et j'avais des informations que c'est faux ce qu'il disait. L'information circulait au conseil d'administration. L'information circulait dans tous les comités. Et il y avait des conclusions, il y avait une stratégie, il y avait des retards dans la livraison. Tout était écrit. Donc, vous avez un retard et le gouvernement n'était pas au courant. Si c'est le cas, fermez le pays parce qu'on s'en va vers le mur. Donc, vous donnez un budget, vous ne le surveillez pas, c'est la faillite. Moi c'est un langage d'entreprise que j'adopte. Je vous donne un budget, gérez la business. Mais vous ne me dites pas si vous avez dépensé le budget, mais revenez, demandez-moi un surplus. Ou demandez-moi d'autres, à ce que j'injecte beaucoup d'argent. Donc, c'était ça le point de départ. Et ça m'énerve à un point que tu ne peux pas imaginer parce qu'on a essayé de ne faire passer une vite. Parce que la paresse intellectuelle de beaucoup de gens, c'était facile d'adopter la version caquiste. On nous a menti. D'ailleurs, c'est dans le rapport. On vous a menti. C'est bon. Non. Donc, malheureusement et heureusement, c'est qu'il y avait des gens honnêtes qui ont pris le temps de nous écouter. On a essayé de jouer un peu la game avec la CAQ, parce que quand tu as en face de toi un gouvernement avec beaucoup de spineux, avec beaucoup d'attachés de presse qui sont sur le téléphone, qui essaient de dire le contraire, qui essaient de dire non, on nous a menti là, regardez là. L'Assemblée nationale a reçu de la mauvaise information. Bon, regardez, quelques mois plus tard, et t'as tout ça, c'est public. Regardez mes conférences de presse au mois de février, je disais même les noms. Wallet, je disais Eric Kerr, je disais Guilbeault, et je disais même, écoutez, on a sacrifié Eric Kerr, mais non. Bonnardel est responsable, Guilbeault est responsable, tout ça est public et documenté. Je n'invente rien aujourd'hui, un 4 septembre. Tout ce que je dis maintenant, je l'ai dit au mois de février. Qu'est-ce qu'on a su pendant la commission Galland? Ben, les menteurs, ceux qui ont falsifié, ben, c'est eux-mêmes qui disaient « on nous a menti ». Bonnardel a menti via son cabinet. Et au moment où je vous parle, je vois un message que je viens de recevoir. La personne attitrée dans le cabinet de Bonnardel échangeait avec la SAC comment changer un paragraphe et en lui suggérant une version. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les médias se rendent compte de l'augmentation de l'effectif. Ils ne veulent pas que les parlementaires sachent la vérité. Donc, c'est ça ce qu'on vit présentement.
Mon chef de régie, j'ai pas l'impression qu'on gère le Québec. J'ai l'impression qu'on gère les communications.
Oui, vous avez raison.
On veut savoir comment ça va sortir, puis si ça risque de bien sortir, puis on va planifier tout ça pour que le gouvernement en place paraisse bien. Visiblement, ça n'a pas fonctionné à la commission Galland, de ce qu'on a vu dans les dernières semaines, les derniers jours. Bonnardel est passé 20 à 25 fois, il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Mme Guilbeault est rendue à peu près une quarantaine de fois. Éric Kerr, visiblement, lui, dit que ce n'est pas de sa faute et il n'aurait pas pu faire autrement que ce qu'il a fait là. Alors, pourquoi il a démissionné? Pourquoi on l'a fait démissionner? J'ai l'impression, moi, que François Legault a pitché en dessous du 10 roues Mme Guilbeault en disant que les gens qui étaient responsables, c'était les ministres des Transports. Ouais. J'ai hâte de voir comment le remaniement ministériel va se faire, mais j'ai l'impression qu'il y aura des règlements de compte qui vont se faire à ce moment-là. Mais moi, ce que je déteste, c'est me faire mentir en tant que contribuable, M. de Ragis. Et je sais très bien, je connais la personne qui fait la revue de presse pour ce qui est du premier ministre. En fait, tous ceux qui sont au troisième étage, son nom, c'est Jean-François Dumas d'Influence Communication. Ces gens-là ramassent l'information qui est pertinente pour le gouvernement et met ça tous les matins sur le bureau du premier ministre, sur le bureau de Martin Koskinen. C'est clair que l'information comme quoi il y avait des dépassements de coûts dans ces dossiers informatiques-là ont été sur la table du premier ministre et de Martin Koskinen. Et j'ajoute le tweet de Mitch Garber qui questionnait les dépassements de coûts dans ce dossier-là. François Legault, ça l'a tellement intrigué, ça a tellement heurté son ego, le texto de Mitch Garber, qui a demandé à son équipe de répondre à Mitch Garber. Mais il n'aurait pas pensé à demander à son équipe, finalement, les dépassements de coûts, ça ressemble à quoi, tu sais?
Fouille-moi ça. Mais ça, c'est le patron.
Ben ouais.
C'est un CPA. C'est l'ancien patron de Transat. Donc, juste un peu, parce que ce que vous venez de dire, c'est très important. Ce gouvernement, il est venu au pouvoir pour nous dire on va être un gouvernement de gestionnaires et de comptables qui savent compter. En fait, c'est des compteux, ce n'est pas des comptables. Parce que au lieu de faire leur travail, et rappelons une chose importante, c'est la plus importante transformation numérique de l'État québécois. Et M. Legault, vous êtes en train de me dire, attendez, j'ai rien vu. Je ne suis pas au courant. Et l'intellectuel penseur qui est son bras droit, M. Koskinen, lui, non. Il a le temps de lire les revues américaines, il a le temps de lire des livres. Et souvenez-vous, M. Legault, chaque semaine, nous parlait des résumés de ses livres. Il n'a pas eu le temps de demander une mise à jour de CASA. Il n'a pas eu le temps de demander les 500 millions ou les 450 millions que mon gouvernement a octroyé à CASA, qui est la plus importante transformation numérique. Où est rendu ce projet? Est-ce qu'on suit les indicateurs? Est-ce que ça va bien, cette transformation numérique? Donc, écoutez, moi, je pense que les Québécois et ceux qui vous suivent, et d'ailleurs, je vous écoute religieusement à Québec, il n'y a personne qui achète la thèse caquiste. Moi, pour moi, la CAQ, c'est fini. M. Legault a perdu sa crédibilité. Il a minimisé, je dirais, les dégâts lors de son passage parce qu'il a été très bien scripté. Et d'ailleurs, lui, Koskinen et Wallet, on dirait que c'est la même équipe qui les a préparés. Parce que les trois, surtout M. Wallet hier, qui ce n'est pas rien, c'était l'homme le plus puissant au Québec. Juste les gens qui suivent, là, ces trois personnes peuvent tout changé au Québec. Le premier ministre, son chef de cabinet Koskinen et le secrétaire général. Secrétaire général gère l'appareil gouvernemental. Il gère tous les sous-ministres. Donc, si vous voulez tourner à droite, c'est ces trois personnes qui peuvent vous tourner à droite. Si c'est, vous voulez qu'ils tournent vers la gauche, ils peuvent tourner vers la gauche. C'est ces trois personnes qui sont responsables. Et M. Ouellet nous disait hier, c'est comme c'est autour d'une discussion, autour d'une bière, là. J'arrive, monsieur garçon, écoutez, là, je veux 222 millions. Mais c'est pas si grave que ça, là. C'est ça ce qu'il nous a dit hier. C'était pas une longue discussion, selon lui.
Non.
Ah ouais, c'est comme ça qu'on autorise les 222 millions. Ben là, maintenant, je comprends pourquoi on a perdu notre argent avec Nordvolt. Si c'était une discussion autour d'un napkin, autour d'une bière, ben c'est comme ça que l'État québécois est géré par le gouvernement caquiste.
C'est inquiétant. Puis hier, j'entendais la ministre Fréchette, que j'aime bien, soit dit en passant. Je trouve que c'est une femme qui s'exprime bien.
Pourquoi tu l'aimes?
Ben, elle s'exprime bien. Elle
vient donc toi aussi, tu es du genre que t'aimes ça, les gens qui parlent très bien. Hein? Non, genre les bonnes lignes de com. Excuse-moi. Parlons des subventions. Excuse-moi. Là, ça me choque. Ça me choque. Là. Non, mais tu viens de me dire que tu l'aimes bien parce qu'elle s'exprime bien.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle s'exprime bien. Elle a l'air d'une femme franche et honnête. On l'a mis à cet endroit-là, puis c'est un gros portefeuille. Là, on parle maintenant d'une super ministre. Elle remplaçait Fitzgibbon. Et de voir que le peu d'empathie envers l'argent perdu des Québécois, ça m'a déçu de cette personne-là.
Ouais. Mais je t'ai taquiné tout à l'heure sur la ligne de com.
Mais c'est pas grave, les politiciens sont tout le temps comme ça. Il faut qu'ils nous laissent le moins parler possible.
Non. Écoute, je vais t'écouter.
Mais dans son cas, elle, je l'aimais bien. Je veux dire, elle s'exprime bien. Elle est capable de prendre des dossiers complexes et de bien l'expliquer aux Québécois. Mais là, de voir le peu d'empathie qu'elle a envers tout cet argent-là qui a été perdu, ça a déplu à énormément de gens, M. de Ragy. Et ça, c'est sans compter toutes les autres qui étaient « Ah ben qui risque rien n'a rien ». Écoutez, c'est des impôts que les Québécois paient, là. On est amputé à peu près à moitié de notre salaire quand on est employé. Notre employeur nous fait des ponctions. Puis là, on se dit, tabarouette, il me semble qu'il n'en reste pas beaucoup. Puis on se rend compte que les politiciens utilisent ça en disant, ben c'est comme du gambling. On trouve que ça a bien du bon sens. Donc, on va donner de l'argent à une entreprise qui est milliardaire. Puis on va les faire venir ici. Fait qu'on envoie l'argent. Sans demander de facture à rien. Puis il nous reste le terrain, M. de Ragy. Là, j'imagine qu'on sera capable de faire quelque chose avec le terrain. Mais de voir qu'on a peu d'empathie pour l'argent qu'on a perdu, ça me laisse présager le pire pour la suite. Si on laisse la CAQ au pouvoir, il n'y a pas moyen de... T'sais, je vous ai posé la question hier matin. On s'est parlé très tôt. Il était 6h45. Ce gouvernement-là n'est plus légitime de gouverner en raison des infrastructures qu'ils ont mises en place, qui sont toutes en train de s'écrouler. Comment on peut les laisser là encore un an? C'est comme de se faire harakiri, là.
Ouais. Mais M. Marceau, dans votre intervention, vous rappelez un élément important. C'est le modèle québécois de la création de la richesse. Et ça, ce n'est pas la première fois que je parle de ce modèle. Notre modèle de subventionner les entreprises pour la création d'emplois, je pense qu'il est dépassé. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, même notre modèle doit être revu. Comment on veut créer la richesse au Québec? Quel secteur d'activité est porteur? Et ce n'est pas au gouvernement de choisir les gagnants et les perdants. Le gouvernement doit avoir les mesures nécessaires pour encourager l'investissement, laisser l'entreprise privée travailler, innover, exporter. Le gouvernement doit agir en donnant un environnement de taxation favorable, des mesures incitatives, mais non pas subventionner. C'est ça le modèle, malheureusement, caquiste de la création de la richesse. Et M. Marceau, encore une fois, quand le gouvernement Legault est venu au pouvoir, dites-moi juste un seul projet réussi par la CAQ.
Seul projet. En fait, ils ont tous scrappé les promesses qu'ils avaient faites en 2017-2018, où ils allaient réduire la taille de l'État.
De l'État,
où on allait exploiter les ressources.
Les ressources, voilà. Donc, quand on voit qu'un gouvernement, au bout de 7 ans ou 8 ans, a échoué dans la création de la richesse, sachant que c'était un patron d'entreprise, même s'il a quitté Air Transat depuis quand même très longtemps, c'est un politicien de carrière pour moi, Legault. Mais malheureusement, il n'a pas réussi d'un point de vue économique. Mais pire encore, les missions essentielles de l'État, à savoir la santé, l'éducation, la justice et les autres, il n'a pas réussi à améliorer les missions essentielles de l'État. Donc, C'est là où on a devant nous un gouvernement de fin de régime. Ça se voit, c'est ça les indicateurs d'un gouvernement de fin de régime. Ils vont revenir sur, j'espère que les Québécois vont voir ça. Là, on va voir un retour de la CAQ, pas sur l'économie, ça va être l'identité. Ça va être les immigrants, ça va être les prières dans les rues, ça va être... Je ne dis pas que tout ça, ce n'est pas important, mais entre vous et moi, là, quand je vois les indicateurs économiques et macroéconomiques du Québec, l'urgence, elle est là. Le Québec est un pays de création de richesses. On était toujours bon. On crée la richesse pour pouvoir gérer nos hôpitaux et nos écoles. Malheureusement, l'explosion des coûts est devenue la marque de commerce de la CAQ. Les hôpitaux. Moi, j'ai fait une genèse des projets de transport. Ça coûte très cher, parfois deux, trois fois le prix initial, nos routes. Et regarde l'état de nos routes. Regarde la société de traversée du Québec.
Oui, puis je vous rappellerai que le Québec a été bâti sous la politique du plus bas soumissionnaire.
Oui, ça aussi.
Coûte, ça nous coûte deux, trois, puis quatre fois le prix que ça peut coûter ailleurs. Il y a une problématique quelque part. Puis quand je jase avec des entrepreneurs qui sont au privé, ben ils ont une tendance à dire, ben nous, on charge le juste prix au privé, puis ils me le mentionnent. Mais quand c'est avec le gouvernement, que ce soit les trois paliers gouvernementaux, que ce soit le municipal, le provincial ou le fédéral, ce qu'ils me mentionnent, c'est qu'ils pèsent un peu plus fort sur le crayon parce que c'est extrêmement complexe faire affaire avec les divers gouvernements. Parce qu'il y a toujours des fonctionnaires qui vont arriver dans le dossier pour rendre la tâche encore plus compliquée sur le chantier. Ce qui fait en sorte que les gars et les filles qui font affaire avec le gouvernement, ça ne leur tente pas toujours de niaiser bien longtemps puis de perdre de l'argent. Donc, ils pèsent plus fort sur le crayon. Puis au travers de ça, ben, ils se parlent entre entrepreneurs. Ce n'est pas une cachette. Puis bien souvent, ben, on arrive à peu près avec trois entreprises qui ont à peu près soumissionné au même prix. On ne comprend pas vraiment pourquoi, mais on se doute que peut-être ces gens-là se sont jasés. Mais pourquoi c'est si complexe de faire affaire avec le gouvernement? C'est peut-être la raison pour laquelle on charge deux puis trois fois le prix.
Oui, mais aussi le contexte qu'on n'a pas, pas encouragé la compétition parce que est-ce normal qu'il y ait des appels d'offres où tu as juste un seul soumissionnaire? Moi, j'ai parlé avec des gens, écoutez, surtout au milieu universitaire, il m'a dit, Monsef, on est obligé. J'ai un seul soumissionnaire. C'est parce que c'est rendu complexe faire affaire, que ce soit avec le gouvernement ou les institutions paragouvernementales. Donc, est-ce qu'on n'est pas obligé de revoir le modèle? Et c'est ça que quand tu as un sous-soumissionnaire, mais tu es à la merci de ce sous-soumissionnaire. Et oui, tu acceptes de payer deux, trois fois, malheureusement, je le dis bien malheureusement. Encore une fois, c'est des choix économiques. Est-ce normal? Et là, encore une fois, je ne veux pas qu'on interprète mon questionnement comme que je ne veux pas parler des maisons des aînés, mais est-ce normal aujourd'hui? Nous avons un modèle développé par la CAQ qui nous coûte $1 million la porte. Est-ce que c'est ça le bon modèle? Sachant que ça marchait avant à 400 000 la porte avec des partenariats qui fonctionnaient très bien. Donc, Monsieur Marceau, l'échec caquiste, il est dans tous les niveaux. Et ce n'est pas parce que je suis député du Parti libéral à l'opposition que les gens qui nous écoutent, ben c'est normal. Tu es à l'opposition. Ce que tu dis, c'est critiquer le gouvernement. Mais moi, je vous ramène des faits. Prends la plupart des propositions caquistes. Je vous donne une. Les maisons des aînés. Ça a été le cheval de bataille de la CAQ. Et leur réponse était, on ne va pas s'empêcher de ne pas investir pour nos aînés, nos bâtisseurs. Oui, je suis pour. Mais est-ce que j'ai le droit de poser la question? Entre 400 000, le modèle ancien qui fonctionnait très bien, et $1 million aujourd'hui?
Ben oui, vous avez le droit de poser la question. Ben oui, vous avez le droit de poser la question.
Mais c'est là où on est rendu à 13 milliards de déficit. Les gens qui se posent aujourd'hui la question, pourquoi on est passé d'un surplus libéral en 2018 à un déficit avec une décote, avec un déficit de 13 milliards? C'est parce qu'avant d'investir ou aller dans des investissements majeurs, ben, on se pose la question, est-ce que les Québécois ont les moyens de payer ça? Sachant qu'on reçoit encore de la péréquation. On dépend de la péréquation. Sachant, M. Marceau, que le service de la dette, c'est presque 13 milliards. Sachant que le budget de transport est de l'ordre de 10-11 milliards. Donc, on paye autant d'argent pour la dette que pour le ministère, tout le ministère des Transports. Oui. Donc, je veux bien rêver et vous vendre du rêve. Mais je ne dois pas oublier que j'ai un budget et ce budget, je dois le respecter. Je ne dois pas laisser une dette générationnelle à vos enfants et à mes enfants. C'est ça, gérer un État. Ce n'est pas gérer gérer. C'est ça l'état. C'est comme ça qu'on doit la gérer.
Je regardais ce matin, puis j'essaie de trouver un autre article. Peut-être que vous avez plus de mémoire que moi. Je parlais avec Marois Risky hier, comme je vous disais tout à l'heure. Puis elle me parlait d'un contrat, en fait, d'un terrain qui avait été vendu à un entrepreneur par le gouvernement du Québec. Et cet entrepreneur-là, quelques semaines plus tard, a vendu ce même terrain-là plusieurs milliers de dollars de plus à Hydro-Québec. Moi, ça m'avait marqué, ça, quand elle m'a raconté ça. J'essaie de retrouver l'article là, pour savoir exactement c'était quoi le terrain. Je ne suis pas capable de le trouver, mais ça m'avait flabbergasté. Ça veut dire que le gouvernement du Québec ne parle pas à Hydro-Québec et Hydro-Québec ne parle pas au gouvernement du Québec pour ce qui est des terrains. C'est un autre problème de communication au gouvernement du Québec. Puis ce matin, sous la plume de Daphné Dionvier, on parle du Centre de services scolaires des Samars qui réclame depuis 2021 la construction d'une nouvelle école parce que eux autres, leur capacité a dépassé de 2000 élèves. Donc, ils avaient besoin d'une école secondaire et ils ont trouvé un moyen de bâtir quelque chose 5 fois moins cher. Ça va être une école secondaire temporaire parce qu'on n'a pas l'argent nécessaire pour se bâtir une école secondaire en bonne et due forme. Sachez que cette école secondaire temporaire-là, qui va nous coûter énormément cher, elle ne sera pas bonne aussi longtemps que les écoles secondaires qu'on bâtit, qui vont être là pendant 50, pendant 60, 70 ans. J'ai des écoles à Québec qui ont plus de 100 ans. Comment on peut ne pas avoir les moyens de se bâtir une école secondaire, sachant que ces écoles-là peuvent durer 50, 60, 70 ans? Pourquoi on y va avec un genre de projet de 20 millions qu'on se dit c'est juste parce qu'on a ce budget-là? Je veux dire, il faut penser à long terme pour nos enfants. Dans 20 ans, ça va coûter combien bâtir une école secondaire, M. de Ragy?
C'est pour cela, M. Marceau, encore une fois. Est-ce que le gouvernement a encore les moyens? Je vous ai dit, 13 milliards. L'obsession du gouvernement caquiste maintenant, c'est régler le déficit. Ils doivent ralentir les dépenses. Sinon, il va y avoir une autre décote. Et pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi une autre décote? Ça veut dire que pour emprunter, ça va nous coûter plus cher. Dès que tu es décoté, l'emprunt coûte cher. Je vous ai dit tout à l'heure, le service de la dette qu'on a, on paye un prix sur cette dette. Il est rendu à 13 milliards. Dès qu'on va être décoté et on n'a pas un plan de visibilité sur le retour à l'équilibre budgétaire, le service à la dette va augmenter. Tous nos emprunts vont nous coûter cher. Mais ça, c'est uniquement en un mandat et demi qu'on est arrivé à là.
Et quand
on est arrivé à ce stade. Oui. Donc, le gouvernement va arrêter plusieurs projets, va limiter la croissance des dépenses parce qu'ils ont perdu le contrôle. C'est comme si quelqu'un qui a une carte de crédit, mais tellement la carte de crédit est pleine qu'il n'arrive même pas à payer le strict minimum que la banque lui demande parce que c'est obligatoire de payer ce strict minimum. Sinon, tu te ramasses à payer 20% de plus. C'est là où il est le gouvernement Legault.
Quand je vous parlais tantôt du manque d'empathie de Mme Fréchette, de la ministre, concernant la fin du dossier Northvolt puis la perte de plusieurs millions, en fait des centaines de millions de dollars, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est pas si grave que ça de perdre autant d'argent? Parce qu'il n'y a pas d'imputabilité. Puis parmi les hauts fonctionnaires qui ont été impliqués dans la commission Galland, qui visiblement ne méritaient même pas de travailler aux boutiques à 1$, il n'y en a pas un qui a perdu son emploi. Au contraire, ces gens-là ont été déplacés. Ceux qui faisaient partie des conseils d'administration de la SAC ont été déplacés. Ils ont été mis à d'autres endroits avec des salaires des fois qui étaient plus élevés. Pourquoi il n'y a plus d'imputabilité sur les gens qui ne font pas bien leur travail au gouvernement? Ouais.
Et sachant que les gens qui les nomment, c'est le gouvernement Legault. Le gouvernement Legault a déplacé l'ex-PDG de la SAC à l'Office de la protection du consommateur. Yves Wallette, il est maintenant avec un bon salaire à l'autorité des marchés financiers. Le gars qui n'a pas vu les 222 millions, by the way. Le gars qui nous a dit que 20 pages, c'est beaucoup. Il est respecté à la tête de l'autorité des marchés financiers. Donc, quand on accepte ce niveau d'incompétence et de je m'en foutisme, ça donne que personne n'est imputable parce que c'est la culture organisationnelle caquiste. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que c'était une perte énorme, 500 millions, parce que c'est devenu une unité de mesure. Dans pas longtemps, on va commencer un cyclique, deux cycliques, trois cycliques. C'est devenu la norme. On perd 500 millions, c'est cyclique. On perd 1 milliard, c'est deux cycliques. C'est devenu une unité de mesure pour la CAQ parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est leur choix. Là, je comprends pourquoi M. Fitzgibbon a quitté. Il voyait probablement le naufrage. Le naufrage arriver. Il a quitté le bateau caquiste.
Mais là, les prochains scandales avec notre argent, M. Deragy, ça va-tu être les hôpitaux? Les hôpitaux qui sont en construction avec des dépassements de coûts qui sont phénoménales. Je ne sais pas, vous, comment ça va vos finances. Je sais que vous, avec ce que vous gagnez actuellement à l'Assemblée nationale, vous travaillez moins que le salaire minimum là, de l'heure parce que vous faites énormément d'heures. Mais si vous avez un budget, vous, pour bâtir votre maison, puis vous le défoncez de, je ne sais pas moi, de plusieurs centaines de milliers de dollars, ça va avoir un impact. Puis le banquier va vous dire, M. Deragy, quand vous avez fait la préparation de votre budget, ça avait comme pas de bon sens. Là. Est-ce que vous le saviez qu'il allait y avoir des dépassements de coûts comme ça? Les gens qui s'occupent de calculer comment ça va coûter le projet d'un méga-hôpital, c'est des gens qui ont appris au bas de l'échelle parce qu'il n'y a pas de formation pour ce type de métier-là. C'est ce qu'on nous a appris hier. Il n'y a aucune formation pour être un approvisionneur. Là. Et ces gens-là doivent essayer de composer avec ce qu'ils ont comme expérience pour dire ce projet-là va coûter à peu près ça. Puis là, on jase avec les ingénieurs, on jase avec les architectes. Il faut même jaser des fois avec les chirurgiens parce qu'il y a des chirurgiens qui ont des demandes spéciales. Juste de préparer le budget pour la construction de ces hôpitaux-là, c'est un peu weird parce que les gens qui le font, ils savent pas trop ce qu'ils font. Là. C'est une catastrophe.
C'est je ne sais pas, les gens qui nous écoutent, je ne veux pas les déprimer.
Trop tard.
Parce que, parce qu'il faut aussi avoir de l'espoir, là, parce que sinon, on voit ce qui se passe et on va tomber malade. Mais malheureusement, vous avez raison de le dire, il y a de l'incompétence. Et sérieux, revenons à la base, l'imputabilité. Et il y a des bonnes personnes et moi, je peux vous assurer que même dans les scandales que j'ai... j'ai essayé de mettre sur la place publique, il y a des bonnes personnes avec qui j'ai collaboré, il y a des bonnes personnes qui me donnent des bonnes pistes. Il y a du bon monde aussi, même s'il y a du bois mort et des gens incompétents, il y a des gens qui sont très compétents et qui ont à cœur l'avenir du Québec. Donc, ce n'est pas vrai que non. C'est juste des pans pourris.
On va souhaiter que ces gens-là sortent de l'ombre, M. Deragy. Ce matin, j'ai annoncé que j'allais vous parler dans Marceau Soir, puis il y a des auditeurs qui m'ont envoyé des questions pour vous. Une balle du champ gauche là, que vous aimeriez peut-être pas, mais il faut que je vous la pose. Les prières de rue, j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça va prendre beaucoup d'ampleur dans les médias. Votre position sur les prières de rue, que ce soit de confession chrétienne ou musulmane?
Il y a des prières... Enfin, toutes les communautés ont des prières chrétiennes, musulmanes, grecques. Il y a plusieurs prières. Il y a plusieurs communautés qui font ce genre de manifestation, ce genre d'expression, si je peux dire, religieuse. Encore une fois, l'urgence de ramener ce débat maintenant, je ne dis pas que ce n'est pas un problème. Il faut en parler. D'ailleurs, j'attends le dépôt du projet de loi de la CAQ pour voir comment ils vont faire pour interdire les prières. Il y a des églises dans mon comté où il y a des marches. C'est des marches religieuses, des prières. Il y a la communauté juive. Il y a pas mal d'expressions religieuses. Ceci étant dit, on va voir le dépôt du projet de loi. Comment la CAQ va interdire les prières? Quel type de prières? Pourquoi?
Parce qu'on peut pas cibler une communauté. Si on le fait, on doit le faire pour tout le monde.
Ils ont deux choix. Soit ils vont préciser le type de prière, ou bien, écoute, ils vont aller d'une manière générale. Mais encore une fois, s'ils font ça, vous savez, on ne peut pas déposer des lois qui ne respectent pas nos chartes. Et quand même, on est dans un pays démocratique. Jusqu'à nouvel ordre, il faut respecter les règles et on a une charte de droits et libertés et c'est très important. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas un groupe ou tu sais que tu es bas dans les sondages et tu veux aller flirter un peu avec un angle qui va te remonter dans les sondages. Mais encore une fois, il y a des groupes qui ont qualifié que ce genre de prière, ce n'était pas intelligent. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas intelligent, ce genre de prière, ou tu ne l'aimes pas que l'État doit légiférer. C'est ça qui est très important. Donc, j'ai bien hâte de voir comment le gouvernement Legault compte ramener sur la table ce projet de loi, comment le gouvernement Legault qui est dans dans plusieurs scandales, ça ne va pas du tout. Là. Il y a des départs aujourd'hui au moment où on se parle.
Ouais.
La CAQ se vide. Le navire caquiste se vide. Donc, est-ce que quand ça va mal à l'intérieur de la CAQ, on ramène l'identité sur la table? Moi, l'identité et la laïcité, c'est extrêmement important. C'est très important pour moi. Mais ce n'est pas parce que quand ça va mal, la CAQ doit le ramener. La laïcité, c'est extrêmement important. C'est quelque chose de sacré. Et l'État doit rester laïque. L'État doit être laïque. Mais jamais, jamais, moi, personnellement, je vais imposer ou demander à ce que les individus soient laïques. Les individus peuvent faire ce qu'ils veulent, croire dans la religion qu'ils veulent, le Dieu qu'ils veulent, ou même n'importe quelle croyance. Ce n'est pas à moi, en tant que législateur, d'aller vous dire... Monsieur Marceau, vous devez croire en ça et vous devez suivre ça. C'est ça, c'est de l'ingérence, là.
Mais c'est parce que
L'État n'a pas à s'ingérer dans la vie des gens.
Ouais. Ben moi, je pense qu'on doit considérer tout le monde sur le même palier. Donc, si on se dit les prières de rue, c'est terminé, il faut que ce soit pour tout le monde. Et si on embarque là-dedans, bien sûr qu'il va y avoir des contestations en cours, ça va toucher la Charte des libertés. Je pense que le Québec a un droit de regard là, pour certains trucs, peut plaider certains trucs dans le dossier. Mais de voir un Adil Sharkawi qui appelle à la mort des Juifs, moi, ça m'avait marqué, M. De Raggi. Puis je me suis dit, moi, ce gars-là est pas c'est pas un bon Canadien, là. C'est pas quelqu'un que je veux voir dans mon entourage en toute liberté qui incite les gens à faire du mal à d'autres communautés. J'en veux pas de ça chez nous, là.
Ouais, mais des messages pareils, écoutez, il y en a pas mal et c'est complètement débile à voir et tenir ce genre de propos. Des propos islamophobes ou antisémites, ce n'est pas des propos qui ont leur place dans notre société. Mais encore une fois, qui suis-je pour enlever la citoyenneté canadienne à quelqu'un ou ne pas le considérer comme canadien? Il y a des gens qui pensent, et c'est triste de le dire, pareil, c'est des gens qui existent dans notre société. Maintenant, le rôle de l'État, c'est quoi? C'est protéger les communautés vulnérables, limiter l'utilisation des propos haineux et du discours haineux. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais encore une fois, nous avons une charte des droits et libertés qui respecte tout le monde, qui respecte les libertés individuelles, les libertés religieuses, la liberté de conscience. L'État n'a pas à s'ingérer dans les affaires des gens. Par contre, l'État doit être laïque. Ça, c'est très important. La laïcité, c'est très important. Ce n'est même pas négociable.
Puis est-ce qu'on fête encore Noël? Est-ce qu'on a le droit d'avoir encore des sapins dans les écoles, les endroits publics?
Dans mon bureau, moi, j'ai toujours un sapin. Je trouve ça beau, d'ailleurs. Dès que Halloween passe, mon bureau, ils ont une commande très claire.
Mais je parle pas de vous. Si on dit qu'on doit être égal avec tout le monde puis on veut une société laïque, puis quand vous voulez faire vos prières, c'est soit dans les églises, dans les mosquées ou à la maison, ça, il n'y a pas de problème. Mais nous autres, de notre côté, parce que moi, j'aimerais garder ce côté-là. Je n'ai jamais été un grand croyant, bien honnêtement, M. De Raggi, mais j'aimerais bien garder le côté Noël, le côté l'émerveillement des enfants.
Et j'espère que on ne va pas l'enlever. C'est triste. J'espère qu'on ne va pas l'enlever et on ne va pas se rendre là.
Parce qu'on est chez nous, là, M. De Raggi. Tu sais, des fois, on a tendance à vouloir faire la place à bien du monde.
Ben, je suis chez nous aussi. Oui. Et pour moi, là, Joyeux Noël, ça fait partie de mon chez-moi ici.
J'adore entendre ça.
Écoutez, venez à mon bureau après Halloween, vous allez voir un beau décor pour fêter Noël.
Donc, il faudrait dire aux communautés, bon, vous n'avez pas le droit de faire ci, pas le faire ça, parce que nous, on est un État laïque, mais de notre côté, il faudrait continuer avec nos petites habitudes, ce qu'on aimait bien pour nos enfants et tout ça. Fait que ça va être compliqué. La CAQ s'embarque dans quelque chose assez tough.
Non, le débat, il n'est pas là. On est quand même dans un pays libre.
Oui, mais ils vont en parler. Paul Saint-Pierre Plamondon va embarquer là-dedans aussi. Là.
Oui, mais le débat, il n'est pas là. Parce que, sérieux, je vous le dis, les communautés vivent en paix. Il n'y a pas de problème.
La majorité, oui.
Les gens fêtent leurs événements religieux. Moi, j'ai dans mon comté une communauté copte égyptienne. Ils m'invitent à leurs événements. J'ai une communauté juive à Kirkland. J'ai une mini petite communauté musulmane. J'ai des Grecs, j'ai des Italiens. Écoutez, il n'y a personne qui m'a parlé d'enjeux. Ces enjeux sortent à un moment précis dans la vie d'un gouvernement.
Exact.
Écoutez, nous avons passé ensemble jusqu'à maintenant 42 minutes. Nous avons parlé 30 minutes, 35 minutes des vrais problèmes. Là, depuis les 10 dernières minutes, on parle d'un problème que la CAQ veut ramener sur la table. Parce que, oui, c'est
très
vrai,
c'est très stratégique. Je veux dire, les prières de rue, on voit ça à Montréal. Moi, j'en ai pas encore vu dans d'autres secteurs. En Gaspésie, il n'y a pas de prières de rue. Mais là, ça a vu. La xénophobie, donc la peur de l'étranger et le racisme vont ressortir des endroits où on pensait que c'était terminé. Puis tout le monde va embarquer dans le bandwagon du Parti québécois et tout le monde va embarquer dans le bandwagon de la CAQ. Puis Éric Duhaime aussi, là, les prières de rue, il n'en veut pas. Il va falloir que les libéraux fassent quelque chose.
Mais je ne pense pas que les gens sont dupes à ce point. Les gens savent que la CAQ, fin de régime, ils passent par des moments difficiles. Legault a besoin de quelque chose pour chercher du fuel pour dire que j'existe.
Ça, on s'entend là-dessus.
C'est là où on est. Ouais. Et donc, tout ce qui est identitaire, tout ce qui est... Même si c'est juste une prière ou deux, le problème, c'est que quand tu ouvres le champ des prières, ce n'est pas uniquement une prière dans les rues qui existent, parce que tu dois définir c'est quoi cette prière. Est-ce que ce que ces gens font devant cette église est intelligent? Non. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des groupes représentant les musulmans qui ont dit ça publiquement la semaine dernière. Exact. Ils trouvent ça que ce n'est pas si intelligent que ça. Mais encore une fois, la question qui se pose, je veux bien légiférer sur les prières. Ben, définis-moi c'est quoi une prière.
Parce qu'on
fait des lois.
Simplement, quand il y a des gens qui sont réunis à quelque part, puis il y a des, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais il y a une cérémonie, puis il y a un imam qui est là, ou encore il y a un curé qui est là, puis ils font la prière.
C'est là où on rentre, parce que là, moi, vous parlez avec un législateur. Quand on veut écrire une loi, il faut définir. Et monsieur, si j'ai juge à assister, ben, tu dois définir c'est quoi la prière, le moment, l'endroit. Ben, là, tu rajoutes quel type de prière? Ben, il y a beaucoup de prières. Écoute, il y a des gens avec un... Écoute, il y a plusieurs personnes qui croient à quelque chose, qui la voient et ils vont avoir un moment de recueillement, un moment de paix. Mais tu sais, c'est vraiment ça l'urgence. Hein? On va ouvrir le Parlement. D'ailleurs, ils vont fermer le Parlement pendant 2 semaines.
Ben oui.
Pas le 16, on revient le 13, le 30.
30, ouais.
Pas pour parler de la commission Galland, parce que la semaine la plus importante, Karl Malenfant va passer avec Nathalie Tremblay, c'est dans 2 semaines. On ne sera pas au Parlement. On était supposé être au Parlement parce qu'ils ne voulaient pas être éclaboussés avec le passage de M. Malenfant et Mme Nathalie Tremblay. Non, non, non. On ferme le Parlement jusqu'au 30. On fait un discours où M. Legault, je vous annonce dès maintenant, il va parler de la laïcité, il va parler des prières, il va parler des méchants qu'on voit dans nos rues et il va parler qu'il veut crier quelque chose que je ne sais pas quoi là parce que ça ne va pas au niveau économique pour lui. Il veut rééquilibrer le budget. Ça va être en quelque sorte ça son discours d'introduction. Et on va travailler moins de semaines que prévu. Parce que M. Legault n'aime pas ça, le Parlement. Parce qu'on le contrôle. Et donc, pour pouvoir diminuer le contrôle, il va donner au peuple que lui, il agit. Il n'aime pas ça, les prières qu'il voit devant l'Église. Non, 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 mais écoutez, ça, c'est très bon là pour moi. Là. Les gens vont me voir que je suis en train d'agir.
Oui, c'est une stratégie.
Non, non. Ouais. Je vous dis, vous avez peur. Moi aussi, j'ai peur. Je dois régler ça. Et écoutez, ben, c'est ça. Donc, j'ai bien hâte à voir. J'ai bien hâte. J'ai hâte à voir le projet de loi.
Je comprends votre position à vous. Est-ce que le Parti libéral a une position semblable à la vôtre?
Ben écoutez, on va avoir nos discussions au moment du dépôt du projet de loi.
Parce que j'ai hâte de voir votre stratégie pour aller vers Québec, aller vers la Gaspésie, aller voir le Saguenay, la Côte-Nord. J'ai hâte de vous voir avec Pablo Rodriguez faire le tour pour rencontrer les régions. C'est quoi les sujets que vous allez aborder avec eux? Parce qu'avec justement cette petite balle courbe là, que la Coalition Avenir Québec puis le Parti québécois va vous envoyer, vous allez devoir avoir une position très claire à ce sujet parce que c'est ça qui va être le prochain sujet, alors que je suis d'accord avec vous, ça n'a pas de maudit bon sens. Les finances, l'éducation, la santé devraient être prioritaires. Et là, ça va être d'autres choses. Ça va être un écran de fumée.
À mon bureau de comté, moi, les messages que je reçois, pas mal, et je vais être honnête avec vous, ça touche l'éducation, ça touche la santé. Les gens n'ont pas de service, n'ont pas de médecin de famille. Au niveau économique, les gens travaillent 2-3 jobs pour subvenir à leurs besoins. Les gens n'arrivent pas à payer l'épicerie. Les gens n'arrivent pas à payer leur loyer de maison. C'est ce que je reçois. Ceci étant dit, est-ce que le débat mérite d'avoir lieu? Ben écoutez, c'est M. Legault qui détient l'agenda parlementaire. C'est M. Legault qui veut ramener ça sur la table, qui voit qu'il y a un problème. Je lui laisse le soin de nous ramener un projet de loi, de le déposer, Moi, c'est comme ça que j'analyse. Je ne peux pas commencer aujourd'hui à spéculer avec vous sur un projet de loi, un éventuel projet de loi que je n'ai pas encore vu. Donc, c'est à M. Legault de nous dire comment il veut contrôler tout cela. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que les gens aiment ça? Ben, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais encore une fois, les Québécois ne sont pas dupes. Ils voient que le gouvernement vit des moments très difficiles. Les ministres, ils ont menti à leur patron. Ils n'ont pas dit la vérité aux parlementaires par rapport au dépassement de coûts. Ils ont falsifié des documents concernant la SAC envoyée aux membres de la commission de l'administration publique. Les gens ont compris le jeu de Legault. Donc, c'est là où je trouve le jeu dangereux de M. Legault. C'est que la laïcité, c'est très important pour l'État québécois. C'est extrêmement important. On ne peut pas négocier. C'est le socle d'une société démocratique. Et ça protège tout le monde. Mais quand ça va mal pour M. Legault, elle essaye de trouver des opportunités et de vouloir légiférer. Donc, encore une fois, pour être honnête avec vous, j'ai bien hâte à voir ce projet de loi. Et c'est sûr que le Parti libéral va être là dans ce débat. On va toujours suivre nos valeurs, nos principes, et on va parler en fonction de nos valeurs et nos principes.
Mais il y a plus de chances que vous soyez dans le nord et dans le sud de Montréal à parler d'économie, tout comme dans l'est du Québec à parler d'économie, de santé, d'éducation, que de parler justement des dossiers sur la laïcité de l'État, de ce que je comprends. Parce que vous considérez qu'il y a d'autres priorités avant ça.
Non, Monsieur Marceau, il faut qu'on parle aussi de la laïcité, il faut qu'on parle de la langue française, il faut qu'on parle de l'immigration. Ce sont des sujets importants pour l'État québécois. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas important. C'est important de parler de ces sujets, comme c'est très important de rassurer les Québécois par rapport à la création de la richesse.
OK.
Quand on voit l'économie et les malheurs qu'on vit avec des dépenses faramineuses du gouvernement Legault et que ça ne donne pas des résultats, quand je vois les missions essentielles de l'État, à savoir l'éducation et la santé, je m'inquiète par rapport à l'avenir économique. Donc les gens veulent voir un parti qui se tient debout, qui va gérer leurs finances publiques bien, ne pas gaspiller l'argent des contribuables québécois, mais aussi créer la richesse. Ceci étant dit, le débat sur l'immigration et sur la laïcité, c'est un débat qui est juste important, mais on doit le faire en fonction de nos valeurs aussi. On ne peut pas commencer à faire un marchandage de quoi que ce soit. Les Québécois veulent voir aussi le Parti libéral se tenir debout par rapport à des enjeux essentiels comme l'immigration et comme la laïcité et l'identité.
Mon chef de régie, député de Nelligan pour le Parti libéral du Québec, on va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Radio. Boulevard 102.1 t'accompagne maintenant en semaine avec une programmation 100% parlée. 100% talk.
Ça parle de quoi?
De l'actu, du sport, des élections, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi. Boulevard 102.1.
102.1.
Maintenant, 100% parlée en semaine.
Du 4 au 7 septembre, Saint-Roch XP s'empare de la rue Saint-Joseph-Est. Plus de 100 spectacles gratuits d'artistes à découvrir dans des lieux inusités. De la bouffe de rue, une galerie d'art et plus encore. Et ça se passe aussi à l'Impérial Belle et au Grizzly Fuzz avec la série Ubisoft. Fred Fortin, Jay Scott, Élie Sapi, Jérôme 50, Alphonse Bisaillon et bien d'autres t'y attendent. Programmation complète au saintrochxp.com. Saint-Roch XP est présenté par SiriusXM.
Air Transat vous offre jusqu'à 7 vols directs par semaine vers Punta Cana au départ de Québec. Visitez décollerdequebec.ca.
Vous cherchez un emploi stable, bien payé et rempli d'opportunités, même à temps partiel? Cosco recrute dans ses entrepôts de la grande région de Québec. On se voit à notre événement de recrutement du 9 au 11 septembre. Visitez notre site cosco.ca et recherchez carrière pour plus d'informations.
Le vendredi 12 septembre prochain, Québec accueille le Grand Prix cycliste. Vous circulez près du parcours ou vous voulez encourager les athlètes? Prévoyez vos déplacements. Consultez ville.quebec.qc.ca/Grand Prix cycliste pour tous les détails. Un message de la Ville de Québec.
En Suède, le minimalisme n'est pas synonyme d'ennui. Il s'agit d'éliminer le superflu et de perfectionner le reste. Polestar 3, le VUS électrique qui se conduit comme une voiture de sport. Pas de parure, pas de fioriture, simplement le design et la performance perfectionnés. Louez votre Polestar 3 pour seulement 899 $ par mois sur 12 mois avec 0 $ d'acompte. Oui, 899 $ par mois, mais uniquement jusqu'au 30 septembre. Visitez Polestar Ville de Québec ou Polestar.com. Les conditions s'appliquent.
Max, t'as-tu appelé Desjardins?
Non, c'est ça, c'est que t'as pas besoin d'appeler grâce à l'application Service mobile Desjardins. Quand ta carte de débit ou de crédit manque à l'appel, t'es capable d'en recommander une rapidement. pilo.
On dirait que tu dis beaucoup « app ».
À part de ça, mettons que ton papa te rappelle de payer ta part de l'apéro.
Franchement.
Non, mais fais-le un virement. Avec l'appli mobile, tu peux faire la plupart de tes opérations courantes. Oh, excuse-moi. App.
Ben non.
App.
Vraiment.
Happy Chew.
App tes souhaits.
Cet automne, consultez les spécialistes des instruments de musique Long et McQuaid pour démarrer du bon pied l'apprentissage musical de votre enfant. Profitez de notre immense sélection de produits et achetez, louez ou louez pour acheter à prix imbattable. De plus, nos écoles offrent des cours individuels pour tous les niveaux, âges et styles avec des horaires flexibles qui s'adapteront à votre emploi du temps chargé. Pour en savoir plus, visitez long-mcquaid.com. Long et McQuaid, là où la musique commence.
De l'écran, Télé-Québec vous attend.
Ce soir à 20h, des moments décisifs à Deux Gardes 24-7.
Ça s'annonce pour être toute une journée.
À 21h, au-delà du sexe.
Notre infi a donné une vasectomie à sa blonde.
C'est qui?
C'est Phil Roy. Ah.
Et à 21h30, soirée quiz.
Un match spécial avec des personnalités de Télé-Québec.
Ce soir dès 20h, Télé-Québec va au-delà de la curiosité.
Au-delà de l'écran, Télé-Québec vous attend. Au-delà de l'écran.
C'est la vente du dollar chez Maxi. Profitez de milliers de baisses de prix, dont les poitrines de poulet désossées format club à 4,99 la livre, 11 $ le kilo, les muffins délices du marché à 4,50 et le bacon PC à 6 $. Plus de rabais en circulaire et chez Maxi.
Chez Québec Brou, là, le déjeuner signature, il est vraiment pas cher. Puis il est jusqu'à 14 h, 5 jours sur 7. Ça fait que si tu passes direct sur tes deux œufs tournés bacon un mercredi, t'as jusqu'à 14 h pour venir déjeuner avec nous autres. Pas pire, hein?
Québec Brou, Vanier, Charlebourg et l'ancienne Lorette.
Vous voulez vendre votre maison, simonlaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? Simonlaberge.com, courtier immobilier Via Capital. Simonlaberge.com.
Du 27 août au 8 septembre, obtenez 20% de rabais sur la peinture Régal Select d'intérieur de Benjamin Moore et découvrez pourquoi il s'agit de la norme d'excellence. Passez chez votre détaillant Benjamin Moore. Chaque achat aide à soutenir les collectivités du Québec. Détails en magasin. Le Port de Québec vous amène en coulisses. Le 6 septembre, découvrez les métiers du fleuve, participez au rallye et gagnez des prix inoubliables comme une visite de navire de croisière. Une fête gratuite et ludique. Ne manquez pas cette fête maritime familiale à l'Oasis du Port de Québec.
Grâce à nos petits bouffeurs de prix IGA, profitez des prix vérifiés garantis ou recevez la différence en points C de plus. Jusqu'au 10 septembre, la bavette de bœuf mariné Top Gourmet est à 11,99 $ la livre. IGA, vive la paix d'esprit. Valable dans les magasins participants. Détails à IGA.net.
Jusqu'au 19 octobre, Escale VR Beaumont s'installe aux Galeries de la Capitale pour sa vente fin de saison. Plus de 60 unités sur place. Profitez de rabais incroyables allant jusqu'à 20 000 $, des taux d'intérêt compétitifs et plus. Escale VR Beaumont jusqu'au 19 octobre aux Galeries de la Capitale.
Connaissez-vous la gourmandise à Lac-Saint-Charles? Venez la découvrir dans le cadre du Burger Week avec son burger spécial Smash Gourmand. Puisque sa spécialité est la viande fumée, ça s'annonce décadent. La gourmandise, ouvert à l'année.
L'application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de short, puis même ta poche de hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1.
C'est plus que du rock.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Quel plaisir de lui parler ce soir. C'est le député Monsef de Ragy qui nous accorde plusieurs minutes pour parler de dossiers de l'actualité. Est-ce que vous avez entendu parler, M. de Ragy, des fameux lundis infernales qu'on aurait au Québec avec des camionneurs qui veulent bloquer la circulation dans quelques jours parce que les camionneurs jugent que leurs droits sont brimés? Et on dénonce certains phénomènes, comme le fameux phénomène des camionneurs Inc. On dénonce aussi qu'il y a des camionneurs qui passent de l'Ontario vers le Québec, qui ne sont pas dûment formés et qui sont de véritables dangers publics sur la route. Cette stratégie-là d'aller bloquer la circulation tant à Montréal qu'à Québec, honnêtement, de la part des camionneurs, je ne la comprends pas, parce que la plupart des gens, puis je sais que vous êtes très impliqués avec les camionneurs et vous appréciez énormément, mais la plupart des gens sont contre le fait de bloquer la circulation pour se faire entendre pour quelconque raison que ce soit. Ils n'auront pas la population de leur côté s'ils bloquent Montréal et Québec, M. de Ragy?
Faut faire attention dans ce dossier. Hein. C'est un dossier que j'ai suivi pas mal. J'ai déposé une pétition. J'ai lancé une pétition. J'ai déposé une pétition. J'ai demandé des actions au gouvernement. J'ai déposé un projet de loi. J'ai fait une conférence de presse à l'intérieur du Parlement. Les demandes des camionneurs sont légitimes. Ils n'ont pas d'interlocuteur. Leur interlocuteur, c'est qui? C'est Mme Guilbeault. Mme Guilbeault gère les tweets de la SAC et son Instagram. Donc, est-ce que c'est juste bloquer les citoyens? Non. Est-ce que je cautionne ça? Non. Malheureusement, il n'y a pas d'écoute de la part du gouvernement. Le phénomène des chauffeurs Inc., c'est un phénomène que le gouvernement connaît très bien. Mais encore une fois, au lieu de régler le problème, la CAQ voit qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus urgents à régler. Et oui, le fédéral doit aussi agir. D'ailleurs, j'attends avec impatience l'action du gouvernement fédéral dans ce dossier parce que ça traîne et il traîne depuis plusieurs années. Donc, je demande à M. Legault de prendre ce dossier au sérieux. Ça, c'est beaucoup plus sérieux parce que c'est des camionneurs qui vont bloquer les rues. Il y a quelques instants, on parlait de quoi? De quelques personnes qui priaient devant l'église. Ça, c'est des camionneurs qui vont bloquer les artères un peu partout au Québec. Donc, j'aimerais bien que la gang de M. Legault qui nous écoute ou qui vont probablement écouter votre podcast, de bouger rapidement. Parce que c'est inacceptable de bloquer les routes et empêcher les Québécois d'aller travailler. Mais encore une fois, ces gens n'ont pas d'interlocuteur au sein du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec n'a même pas cru bon avoir des échanges avec eux. C'est un phénomène qui existe. C'est un phénomène qui frappe à nos portes. Et d'ailleurs, il y avait l'émission GE de TVA qui a fait un reportage extraordinaire. J'ai déposé moi-même un projet de loi. Le gouvernement n'a pas cru bon régler ce problème. Et moi, je parle avec ces camionneurs. Je suis en contact avec eux. Il y a le problème des contrôleurs routiers. On l'oublie. Est-ce que vous savez que les contrôleurs routiers, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là? C'est très difficile avec la SAC. C'est très difficile avec Mme Guilbeault. Donc, Mme Guilbeault, elle ne s'occupe plus de sa fougère. Je n'ai pas arrêté de le dire. Il est temps d'avoir du sang neuf à ce ministère parce qu'il y a tellement de problèmes. Ce n'est pas uniquement la SAC. Permettez-moi, Monsieur Marceau. Ce n'est pas uniquement la SAC, là. Il y a d'autres problèmes. Et donc, oui, c'est un enjeu que le gouvernement doit prendre encore une fois au sérieux.
Ouais, mais je vous nomme, bon, moi, je vous nomme demain matin le ministre des Transports. Qu'est-ce qu'on fait avec les camionneurs qui ne sont pas dûment formés, qui passent les frontières de l'Ontario vers le Québec? Vous l'avez dit, les contrôleurs routiers sont à leur balance présentement. Et s'il y a un camionneur qui passe devant la balance, ils n'ont pas le droit d'aller l'intercepter pour savoir pour quelle raison il a passé devant la balance plutôt que de passer à la balance. Donc, il faut demander l'intervention de la Sûreté du Québec et il n'y a pas toujours de patrouille qui est disponible. Mais qu'est-ce que mon chef de régie pourrait faire, ministre des Transports, contre ces gens-là? Parce que là, les contrôleurs routiers veulent être armés. Moi, je connais la stratégie syndicale pas mal, là. L'objectif, après, c'est d'avoir le même salaire que les policiers, parce qu'à partir du moment où on fait le même travail de contrôle sur l'autoroute, on va demander des salaires égaux à ceux de la Sûreté du Québec. Je comprends la stratégie, mais qu'est-ce que vous faites, vous, contre ces camionneurs-là qui passent chez nous? Y a-t-il un moyen de les intercepter pour savoir s'ils ont été dûment formés? Parce que ce qu'on me dit du côté des camionneurs, c'est qu'il y a Il y en a qui ne sont pas capables de virer à gauche et à droite convenablement de façon sécuritaire, sont pas capables de reculer. Puis quand ils sont sur l'autoroute, les idiots pensent qu'ils peuvent faire un U-turn sans tuer personne.
OK. Premièrement, un gouvernement responsable, il y a plusieurs ministres impliqués dans ce dossier et ça touche aussi le fédéral. Est-ce normal qu'il n'y ait pas eu de discussion avec le fédéral? Est-ce normal qu'il n'y ait aucun leader dans ce gouvernement qui doit arrêter cette hémorragie? Parce que moi, quand je vois des décès et la personne en cause, c'est quelqu'un qui n'a pas de permis, qui n'a pas les habiletés, qui ne parle ni français ni anglais, c'est assez. Fermons ce bar. Mais encore une fois, M. Marceau, il est le leader dans ce gouvernement. Ça, c'est un enjeu sérieux. Il est où, Mme Guilbeault? Il est où le ministre du Travail? C'est le Code du Travail. Il est où le ministre du Travail? Il est où, M. Legault? Est-ce que Koskinen aussi a reçu un document de 20 pages et il ne l'a pas lu? Donc, M. Marceau, vous avez raison de le dire. C'est un enjeu majeur. Au-delà des tractations syndicales ou autres, il s'agit de la sécurité. C'est la sécurité de nos concitoyens. Donc, c'est très important de régler cet enjeu. Mais encore une fois, il est où Mme Guilbeault? Il est où M. Boulay? Il est où le gouvernement caquiste? Parce que ça, c'est un enjeu que la CAQ doit régler aussi avec le gouvernement fédéral.
Exact. Mon chef de régie, est-ce que vous allez avoir le temps de vous calmer pour la rentrée parlementaire? Ce qu'on a appris, c'est que, bon, il reste encore quelques jours avant la rentrée parlementaire, mais là, avec toutes les informations que vous détenez concernant la commission Galland, il va falloir prendre une tisane avant de rentrer à l'Assemblée nationale?
Ben là, est-ce que tu viens de m'insulter? Tu me vois excité? Je suis comme ça toujours. Là.
Non, je pense que vous avez...
Moi, je suis né en mois d'août. Là. On me dit que je suis un lion. Donc, écoute, les lions, ben, c'est comme ça que je travaille. Écoute, ouais. Moi, c'est all in. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit je